bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente année 2021. Aujourd'hui, 1er janvier, ouvrons grand les oreilles pour entendre l'écho. Entamons l'année avec du neuf, de l'inédit, ou plus exactement de l'innovation. Pour l'économiste Joseph Schumpeter, elle est le moteur de la croissance par le savant processus de la destruction créatrice. Ce sont les inventions, nous dit la théorie, qui mènent au progrès et à la prospérité. Mais les dernières décennies semblent avoir donné tort à Schumpeter. Les progrès technologiques n'ont pas apporté la croissance espérée. Comment l'expliquer? Faut-il incriminer le capitalisme numérique et son modèle économique? Et comment rendre à l'innovation son rôle de carburant de nos économies? Voilà les questions qui vont opposer nos deux invités dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour débattre de la place de l'innovation dans l'économie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Cédric Durand, économiste à l'Université de Genève et auteur de cet essai « Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique » paru en septembre aux éditions Zone. Avec nous également à distance, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, directeur de la chaire Institutions, Innovation et Croissance et co-auteur de cet ouvrage « Le pouvoir de la destruction créatrice » paru aux éditions Odile Jacob au mois d'octobre. Une émission à retrouver ainsi que toutes les précédentes sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Cédric Durand et Philippe Aguillon, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, à l'origine des théories de l'innovation, il y a, je le disais, un grand économiste autrichien, Joseph Schumpeter. Je vous propose de commencer cette émission avec un extrait de son ouvrage « Capitalisme, socialisme et démocratie » paru en 1942. Le capitalisme, répétons-le, constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation économique. Et non seulement il n'est jamais stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir. Or, ce caractère évolutionniste du processus capitaliste ne tient pas seulement au fait que la vie économique s'écoule dans un cadre social et naturel qui se transforme incessamment et dont les transformations modifient les données de l'action économique. Certes, ce facteur est important, mais bien que de telles transformations, guerres, révolutions, etc., conditionnent fréquemment les mutations industrielles, elles n'en constituent pas les moteurs primordiaux. Le caractère évolutionniste du régime ne tient pas davantage à un accroissement quasi automatique de la population et du capital, ni aux caprices des systèmes monétaires, car ces facteurs, eux aussi, constituent des conditions et non des causes premières. En fait, l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous éléments créés par l'initiative capitaliste. Ce que Schumpeter, qui a inspiré le titre de votre ouvrage, Le pouvoir de la destruction créatrice, Philippe Aguillon, ce que Schumpeter nous apprend ici, c'est que l'innovation est le moteur de la machine capitaliste.
Oui, tout à fait. C'est en fait, si vous voulez, le décollage de la croissance est une chose très récente. Ça date de 1820 essentiellement, 200 ans, et ça s'est produit en Europe. Et ça a été la révolution de la machine à vapeur. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi elle s'est produite en Europe à cette époque. Et c'est parce qu'il y avait les institutions qui permettaient que la machine à vapeur débouche sur plein d'innovations dans plein de secteurs. Et pour ça, il fallait des institutions qui protègent les droits de propriété, qui permettent la concurrence et qui permettent la diffusion des idées, etc. Et donc, le livre explique notamment, notre ouvrage, Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin et Simon Bunel, explique pourquoi c'est en Europe et en 1820 que ça se passe, et pas en Chine au Moyen-Âge, alors que la Chine avait beaucoup d'inventions, mais il fallait un système qui soit le système capitaliste. C'est dans le système capitaliste que l'innovation s'est vraiment développée et a vraiment fait décoller la croissance.
Pour vous aussi, Cédric Durand, l'innovation est au cœur du processus de croissance?
Oui, l'innovation au cœur du processus de croissance, mais finalement comme conséquence de la contrainte concurrentielle. Hein, si vous voulez, le capitalisme, et Marx l'a dit avant Schumpeter, est un système qui est en révolution permanente, qui se transforme en permanence, en raison de la contrainte de compétition, qui oblige effectivement les différents acteurs à sans cesse se réinventer. Alors se réinventer de manière extrêmement effectivement créative, vive, etc., mais également de façon extrêmement destructive. Il y a donc l'innovation est à la fois un facteur de dynamisme social, mais aussi en partie un facteur d'irrationalité sociale, de développement de maux sociaux. Donc il n'y a pas quelque chose de uniformément positif associé à l'innovation. Je pense que c'est une idée aussi importante.
Alors Philippe Aguillon, c'est important de rebondir sur ce que dit ici Cédric Durand, parce que est-ce que la plupart des économistes s'accordent aujourd'hui à dire que la concurrence favorise l'innovation, mais ça, ce n'est pas ce que disait Schumpeter.
Voilà, donc les idées, c'est ça justement que je crois que dans mes recherches depuis 30 ans, j'ai beaucoup travaillé sur la relation entre concurrence et croissance. Et c'est vrai que chez Schumpeter, c'était très ambigu. Et le problème, c'est que chez Schumpeter, il n'y avait ni théorie, ni empirique. Et il n'y avait pas du tout le dialogue entre théorie et empirique. Et ce que j'ai, avec moi, toute une série de chercheurs de maintenant plusieurs générations qui sont mentionnés dans le livre, c'était vraiment de comprendre un certain nombre de phénomènes, notamment le lien entre concurrence. Parce qu'effectivement, d'un côté, c'est les rentes de monopole qui motivent l'innovation, donc on peut penser a priori que la concurrence va être mauvaise pour l'innovation parce qu'elle réduit ses rentes, mais en même temps, on innove pour faire mieux que le voisin. Donc il y a ces deux effets qui sont là, et ces deux effets sont présents. Et c'est pour ça que la relation entre concurrence et croissance, elle a la forme d'un U inversé, elle n'est pas une relation totalement unilatérale. Mais je voulais dire juste une chose à propos de Schumpeter. Schumpeter avait compris quelque chose, comme il savait que les nouvelles innovations détruisent les anciennes technologies, c'est ça la destruction créatrice, le nouveau remplace l'ancien, il était pessimiste sur l'avenir du capitalisme, parce qu'il disait les premiers innovateurs vont se transformer en intérêts acquis, qui vont utiliser leur rente pour faire barrage aux nouvelles innovations. Et donc lui était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme. Et nous on montre dans l'ouvrage comment, avec l'État et la société civile, eh bien on peut surmonter le pessimisme de Schumpeter. Parce qu'effectivement, il y a cette contradiction. L'innovateur d'hier veut empêcher de nouvelles innovations. À la fois, il faut lui donner des rentes pour l'encourager à innover, mais il peut utiliser ces rentes après pour empêcher de nouvelles innovations. Donc comment l'État, comment la société civile interagissent pour faire que finalement l'innovation continue et que le système se développe, quoi. Et c'est ça tout l'objet du livre, parce que Schumpeter, lui, n'avait pas la réponse à cette question.
Et alors ce pessimisme de Schumpeter dont vous parlez ici, Philippe Aguillon, oui. Est-ce que finalement, oui, Cédric Durand, il ne s'est pas traduit dans la réalité avec des monopoles que sont les géants du numérique qui aujourd'hui empêchent des concurrents d'émerger?
Mais en fait, il y a deux choses qui sont importantes. La première raison, c'est que le pessimisme de Schumpeter venait d'abord et avant tout d'un pessimisme politique. C'était pas tellement les rentes des grandes entreprises qui allaient empêcher l'innovation, mais plutôt le fait que l'organisation de la société allait contrecarrer ces figures chevaleresques qui étaient les entrepreneurs et donc allait construire une forme de régulation, de management du système économique qui finalement était un modèle socialiste. C'est ce qu'il voyait advenir Schumpeter. Alors effectivement, pour ce qui est de la situation aujourd'hui, on est face à un paradoxe qui est extrêmement fort, et en particulier, vu les recherches menées par Philippe Aguillon, c'est l'idée que toute une série de mesures ont été adoptées ces dernières décennies qui ont permis de favoriser l'innovation telle que capturée, notamment par les brevets, les captures de rentes, etc. Et ce phénomène-là est bel et bien documenté. Hein, et Philippe Aguillon a fait un travail tout à fait remarquable pour documenter ce lien entre ces politiques et l'essor de l'innovation. Mais là où il y a une catastrophe du point de vue théorique, c'est que ce phénomène-là n'aboutit pas ni à la croissance ni à la productivité. Au contraire, on a un déclin de la productivité. Et là, les explications sont effectivement à voir dans différentes dimensions, mais en particulier celle-ci, celle d'une forme de monopolisation croissante, monopolisation en particulier au niveau des idées, qui empêche, bloque le système économique. Mais c'est pas la seule chose. Il y a monopolisation au niveau des idées, mais il y a aussi une deuxième chose. Il y a ce que Sweezy, qui était un élève particulièrement apprécié de Schumpeter, avec qui il a beaucoup débattu, appelait la suraccumulation du capital. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grandes entreprises ont tellement de succès, font des profits tellement considérables qu'elles ne trouvent pas d'opportunité d'investir aussi profitables que leurs opérations déjà existantes. Et aujourd'hui, on se retrouve face à cette situation d'une économie mondiale dans laquelle les profits sont extrêmement élevés et pourtant une absence de dynamique, une absence d'investissement. Et donc ça, c'est très important à mon sens parce que la contradiction n'est pas au niveau de l'innovation, Mais là, la contradiction est au niveau du processus d'accumulation du capital, du rapport entre profit et investissement.
Alors, on va revenir sur tous ces points très, oui. très intéressants que vous avez soulevés. Mais alors, Philippe Aguillon, je voudrais tout de même que l'on parle d'abord de la Silicon Valley et de ses innovations de ces dernières décennies avant de voir si elles ont permis ou pas de créer la croissance que l'on espérait. À l'origine de ces inventions, il y a ce que deux chercheurs, Richard Barbrock et Andy Cameron, ont appelé l'idéologie californienne. De quoi s'agit-il, Cédric Durand?
Donc l'idée, j'aurais voulu rebondir quand même, si je peux, sur la ségrégation séculaire quand même.
On va en parler, bien sûr, Philippe Aguillon. C'est pour ça que je ne vous donne pas la parole tout de suite. On va en parler dans un instant. Cédric Durand.
Ouais, l'idée de la Silicon Valley, c'est deux choses. C'est d'une part une forme de révolte anti-autoritaire extrêmement importante et aversion à l'intervention publique, donc une glorification de l'individu, et d'autre part une fascination pour les technologies. Et ces deux éléments qui étaient présents dans la culture hippie en Californie vont rejoindre une partie des conservateurs américains et se cristalliser dans ce qu'on peut appeler le consensus de la Silicon Valley, c'est-à-dire on ajoute à ces deux idées de l'autonomie importante et de la fascination pour la technologie un troisième élément qui est l'entrepreneuriat, la valorisation, la défense des droits de propriété des entrepreneurs. Et ça, cette idée est extrêmement importante, c'est une idée qu'on retrouve chez quelqu'un comme Ayn Rand qui est finalement une figure mythique du capitalisme américain. Et donc, cette logique-là est au cœur du paradigme économique dominant aujourd'hui.
Alors justement, je vous propose d'écouter la philosophe Ayn Rand. C'était lors d'une interview réalisée le 25 février 1959.
Je suis avant tout la créatrice d'un nouveau code moral qu'on a cru impossible jusqu'à présent, à savoir une morale qui n'est pas basée sur la foi, pas sur le caprice arbitraire, pas sur l'émotion, pas sur un décret arbitraire, mystique ou social, mais sur la raison. Une morale qui peut être prouvée par la logique, qui peut être démontrée comme vraie et nécessaire. Ma moralité est basée sur la vie de l'homme comme mesure de valeur. Et puisque l'esprit de l'homme est son moyen de survie fondamental, je soutiens que si l'homme veut vivre sur Terre et vivre en tant qu'être humain, il doit tenir la raison pour un absolu. Je veux dire par là qu'il doit considérer la raison comme son seul guide d'action et qu'il doit vivre d'après le jugement indépendant de son propre esprit, que son but le plus élevé est la réalisation de son propre bonheur et qu'il ne doit pas forcer les autres ni accepter que les autres le forcent, que chaque homme doit vivre comme une fin en soi et suivre son propre intérêt personnel rationnel.
Philippe Aguillon, qu'est-ce que ces mots d'Ayn Rand nous apprennent sur l'idéologie californienne et sur ses liens avec la pensée libertarienne ?
Oui, écoutez, donc je ne suis pas philosophe, donc je pense que Monique Cantos-Perber ou des gens comme ça seraient beaucoup plus placés que moi pour répondre. Donc je crois beaucoup, si vous voulez, moi ce que ça m'inspire, c'est que je crois beaucoup dans le lien, je crois beaucoup dans le rôle de la société civile et dans le rôle de l'État, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de dire il faut d'abord une certaine liberté de l'individu. Je crois qu'on ne peut pas avoir de croissance d'innovation sans liberté. Donc je crois que la liberté, c'est quelque chose de très important, mais il y a la liberté des autres aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours la tendance des innovateurs ou de ceux qui ont des idées à vouloir être hégémoniques sur les autres. Donc il faut des règles et il faut aussi un code de société civile pour empêcher que eh bien, ma liberté soit au détriment de la vôtre. Vous voyez, donc c'est très important que moi j'ai ma liberté, mais c'est également important que je n'empêche pas les autres d'avoir la leur. Et donc, si vous voulez, et on retrouve ça, c'est au cœur de ce qui permet la dynamique de la croissance par l'innovation. Il y a l'idée qu'il faut la liberté, mais il ne faut pas que certains, grâce à leur liberté, puissent en fait empêcher et inhiber les autres. Et je crois que tout est là. Et je veux revenir sur la problématique qui avait été donnée tout à l'heure sur la stagnation séculaire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y a eu la révolution des technologies de l'information. Cette révolution des technologies de l'information a permis à des grandes entreprises, les GAFAM, de prospérer, de devenir importantes. Ça a été d'abord un facteur de grande croissance aux États-Unis. Vous savez que la croissance de la productivité s'est accélérée considérablement entre 1995 et le début des années 2000. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ces grandes entreprises, elles ont pu, sans limite, devenir hégémoniques. Et elles ont inhibé l'innovation des autres. Donc au début, elles ont innové beaucoup, elles se sont étendues, elles étaient très efficaces avec leur réseau, leur capital social, mais ensuite elles ont inhibé l'innovation des autres. Et c'est pour ça que depuis le début des années 2000 aux États-Unis, vous observez une décroissance, un déclin de la croissance de la productivité. Mais pourquoi ? Parce que les institutions n'étaient pas appropriées. La politique de concurrence aux États-Unis n'était pas adaptée à la révolution d'éthique et à la révolution du digital. Et maintenant, il y a toute l'idée qu'il faut adapter les institutions à la technologie. La croissance n'est pas juste le résultat de la technologie, elle est le résultat de la combinaison des technologies et des institutions. Or, souvent, les institutions ne suivent pas. Il va falloir modifier et améliorer la politique de concurrence aux États-Unis pour l'adapter à l'ère du digital.
Est-ce que cette baisse de la croissance, je voudrais faire réagir à Cédric Durand à ce que vous dites, Philippe Aguillon, parce que c'est intéressant en effet, est-ce que cette baisse de la croissance est liée à une insuffisance de la politique de la concurrence? C'est par exemple ce que décrit l'économiste Thomas Philippon que nous recevions hier, Cédric Durand.
Oui, mais je dirais de façon différente. À mon avis, la solution, c'est pas la politique de la concurrence. Mais le problème est bien un problème de monopolisation. Et monopolisation d'abord des idées. Et là, je pense que l'on voit un des effets délétères hein, des politiques promues notamment par Philippe Aguillon en termes de renforcement de la protection des droits de propriété privée ou de renforcement de la fiscalité, enfin dans un sens plus favorable aux entrepreneurs. Ce sont des phénomènes qui étaient extrêmement importants à la fin des années 90 et qui ont justifié l'idée qu'il fallait surtout pas que l'État s'en mêle. Les nouvelles technologies de l'information, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de compliqué, le régulateur ne peut pas comprendre, laissons les entreprises agir. Voilà, le résultat de ces politiques-là, c'est la situation dans laquelle on se retrouve avec non seulement une stagnation de la productivité et de la croissance, mais également des inégalités extrêmement fortes et bien d'autres mots dont on pourrait discuter. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que les droits de propriété intellectuelle, c'est en particulier une question de monopolisation sur les idées qui est bien plus grave que les monopolisations sur les machines, les objets, les terrains, parce que directement, la monopolisation sur les idées, ça s'étend à l'échelle mondiale. Et avec ce durcissement des droits de propriété intellectuelle, eh bien finalement, on a fermé beaucoup d'opportunités à beaucoup de gens d'agir. Donc ça, c'est un deuxième phénomène qui est extrêmement néfaste. Et puis le troisième élément, et ça c'est intéressant parce que c'est présent dans le livre de Philippe Aguillon, hein, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est lorsqu'il explique que finalement, l'innovation dans le cadre d'éthique, et c'est quelque chose qui permet de mieux coordonner, hein, d'économiser du temps et d'échanger le temps des activités des grandes entreprises. Et ça, c'est très juste. C'est-à-dire que les technologies de l'information, ce sont des technologies de l'information, des technologies qui permettent de mieux gouverner, de mieux coordonner, de mieux organiser. Et cette dynamique d'organisation extrêmement puissante à l'ère du numérique est quelque chose qui effectivement change complètement la donne. C'est un nouveau genre de force productive. C'est pas la même chose que l'industrie. Et cette logique-là est une logique de monopole naturel. C'est-à-dire que plus on a de données, plus on gouverne des espaces étendus, plus le gouvernement est efficace. Et là, au cœur de cette révolution numérique, il y a donc cette tendance à la monopolisation extrêmement forte. Alors la réponse, est-ce que c'est la politique de la concurrence, comme ça semble être promu par un certain nombre de personnes? Moi, je ne pense pas. Je voudrais vous donner peut-être un exemple là-dessus. C'est Google qui, effectivement, a été mise à l'amende par la Commission européenne et qui, donc, a dû introduire un mécanisme concurrentiel sur les téléphones Android qui sont vendus en Europe. Et donc, maintenant, il y a des enchères pour savoir quel moteur de recherche va pouvoir être installé sur Android. Le problème, c'est que ces enchères, elles sont donc offertes au plus offrant, au moteur de recherche qui va payer le plus pour être sur Google. La conséquence de ça, c'est que le moteur de recherche qui va être sélectionné n'est pas celui qui est le meilleur pour les consommateurs, c'est-à-dire celui qui est le plus transparent, celui qui respecte le mieux leurs données personnelles ou celui qui est le moins biaisé dans ses offres, mais au contraire, celui qui va permettre de générer le maximum de revenus et donc finalement au détriment des consommateurs. Donc la politique de la concurrence, c'est à mon sens pas la solution.
Philippe Aguillon.
Oui, je pense que, si vous voulez, il faut plusieurs outils. Vous voyez, moi, je crois beaucoup, d'abord, je pense qu'il est, enfin, si vous lisez le livre, vous verrez l'importance du rôle de l'État. Mon modèle est le modèle scandinave. Mon modèle, c'est le modèle danois. Donc, je ne suis pas du tout un partisan du modèle anglo-saxon, du laisser-faire, absolument pas. C'est vraiment un plaidoyer pour le modèle danois, ce livre. Donc d'abord, je veux que l'auditeur comprenne très bien. Et c'est quoi le modèle danois? Le modèle danois, c'est la reconnaissance du triangle entre le marché, les entreprises, parce que c'est quand même elles qui font l'essentiel d'innovation. Vous voyez, le vaccin, c'est quand même des entreprises qui nous donnent le vaccin contre le Covid, hein, je dirais.
Non, mais elles sont massivement financées.
Attendez, mais laissez-moi terminer. Donc, il y a les entreprises qui jouent un rôle dans l'innovation, hein, c'est, voilà. Donc ça, c'est important. Mais l'État est très important. L'État doit réguler. Donc l'État, d'abord, doit faire en sorte que les innovateurs d'hier n'empêchent pas les nouvelles innovations. L'État est là pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans la flexisécurité, dans la protection sociale. L'État est là pour assurer contre les gros chocs comme le Covid, comme l'État, la France l'a fait. La France a dépensé on a mobilisé plus de 500 milliards d'euros pour assurer les entreprises et les ménages contre la crise du Covid. Voilà, donc l'État est très important pour tous ces rôles. Maintenant, comment neutraliser le pouvoir des grandes entreprises existantes? Il y a plusieurs outils. D'abord, la fiscalité, j'y crois beaucoup. Mon livre n'explique pas du tout qu'il ne faut pas l'instrument fiscal. L'instrument fiscal est primordial, évidemment. Mais il n'y a pas que l'instrument fiscal. Il y a d'autres instruments. Il y a la concurrence, la politique de concurrence. C'est une chose très importante de dire la politique de concurrence ne sert à rien. C'est simplement pas vrai. Il faut également adapter la politique de concurrence. Par exemple, le fait que les entreprises, les GAFAM aient pu faire des fusions-acquisitions sans limite, ça a contribué grandement à leur hégémonie et à inhiber l'innovation des autres. Ça, on peut le montrer, je peux vous le démontrer, c'est démontré dans le livre, etc. Et puis, il y a la lutte contre les lobbies. Et puis, il y a la manière aussi d'organiser les campagnes politiques. Par exemple, aux États-Unis, vous savez que rien n'est fait pour empêcher le lobbying et rien n'est fait. Une entreprise peut financer des campagnes politiques sans limite. Ça a été notamment Antonin Scalia et la Cour suprême qui ont permis cela. Ça ne va pas du tout. Il ne faut pas que l'argent puisse acheter le pouvoir. Donc, si vous voulez, les pays scandinaves, leur succès, c'est parce qu'ils ont. C'est que d'abord, il y a l'État qui intervient sous toute une série de formes. L'impôt, la concurrence, la manière d'organiser les campagnes politiques, la lutte contre le lobbying, etc. Et puis, il y a la société civile qui est très importante. Parce que s'il n'y a pas la société civile, il peut tout à fait y avoir collusion entre l'État et les entreprises, comme vous avez au Japon ou dans d'autres pays. Et là, la société civile, son rôle est primordial comme de vigilant et de pousser les choses. Donc le livre met vraiment en avant le triangle marché, État et société civile. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le succès des pays scandinaves. C'est des pays qui ont une croissance assez importante, elle est assez verte, c'est des pays qui sont en point de vue environnement, et c'est les pays les moins inégalitaires, où vous avez le plus de mobilité sociale. Alors, il va dire que tout est parfait au Danemark, et puis il y a la politique de migration danoise, ça n'est pas du tout ma sympathie. Mais je veux dire, c'est des modèles, c'est des pays en tout cas, qui montrent qu'on peut réconcilier croissance, environnement et justice sociale.
Mais alors revenons sur le plan théorique, Philippe Aguirre, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur les pays scandinaves. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette question théorique des liens entre l'innovation et les inégalités, des liens entre l'innovation et l'emploi, puisque au-delà de la question de la croissance, on a de nombreux signes d'essoufflement qui apparaissent. Alors, est-ce que cette hausse du chômage, des inégalités, est-ce qu'elles sont dues à l'innovation? Pour en parler, je voudrais vous faire entendre d'abord un extrait du film Violence à Park Road, Samuel Fuller, qui revient sur la naissance du journalisme à New York à la fin du 19e siècle. Dans cet extrait, le copiste Mr. Angelo s'inquiète de perdre son emploi lors d'une discussion avec son patron Mr. Mitchell et Otmar Mergenthaler, l'inventeur allemand de la linotype, une invention qui va révolutionner l'impression. Et c'est Mergenthaler qui parle en premier, puis la discussion se poursuit entre le patron et le copiste.
I have watched your work.
Je vous ai observé, vous travaillez bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un composer si vite. Il faut du temps pour mettre la pensée en lettres. Je pense que pour faire progresser l'imprimerie, mieux vaut qu'une machine fasse ce que vous faites, mais beaucoup plus vite. Excusez-moi. Si vous pouvez faire ça, vous êtes aussi malin que Gutenberg. Améliorer son invention? Beaucoup ont essayé. Il peut faire ce qu'il dit avec sa machine? Bien sûr, il est horloger. Il connaît les mécanismes de l'ICA. Vous savez ce que je pense? Je pense que s'il arrive à faire marcher sa machine, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous apprendrez à la faire marcher. Il faut savoir lire? Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas renvoyé.
Vous ne serez pas renvoyé. La grande inquiétude qui a toujours entouré l'innovation, c'est que celle-ci finisse par remplacer l'homme. Qu'en est-il, Cédric Durand? Quel est l'impact de l'innovation sur l'emploi? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet?
En fait, l'impact de l'innovation sur l'emploi, il a existé effectivement des périodes, des moments, des phases, des situations de chômage technologique. Et il y a des inquiétudes ouvrières qui sont tout à fait légitimes et dont il faut non seulement prendre en compte, mais accompagner, protéger, etc. Donc, mais je voudrais insister sur le fait que la grande vague d'automatisation qu'on nous a promise, elle n'est toujours pas là. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, mais une des raisons pour lesquelles elle n'est pas là, c'est qu'un des freins à l'innovation aujourd'hui, c'est la faiblesse des salaires. les salaires ne progressent pas. Et un des principaux moteurs de l'innovation, c'est justement le fait de remplacer des machines par des salaires pour faire des économies de coûts. Mais dès lors que vous êtes dans des économies où les salaires sont extrêmement faibles, stagnent, eh bien vous avez un frein très important à l'innovation. Donc ça, c'est un point qui à mon avis, est tout à fait crucial et très, très largement insuffisamment discuté aujourd'hui. Et surtout, c'est quelque chose que je voudrais mettre en regard avec l'idée que la menace du chômage technologique, à mon sens, n'est pas la principale menace aujourd'hui. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui du chômage. C'est plutôt un problème de demande, hein, qui est un problème massif, et un problème d'inégalité également, qui au niveau macroéconomique freine le développement d'emploi. La question du chômage technologique est relativement secondaire. Ça joue un rôle sur les inégalités, par contre, ça c'est un autre aspect. Mais sur la question du chômage proprement dite, le principal frein aujourd'hui, le principal obstacle à l'innovation, c'est la faiblesse des salaires.
Philippe Aguillon.
Alors oui, donc je voulais rebondir là-dessus. Alors, on a toujours cru, c'est vrai que c'était un des grands mystères de l'histoire, pourquoi les grandes révolutions technologiques n'ont pas conduit à du chômage de masse. C'est vrai, quand vous vous souvenez, quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des Luddites, les Luddites en Angleterre, qui était donc, un mouvement qui, en révolte contre les machines à vapeur, dont ils craignaient que ça rende le travail redondant. Ensuite, quand il y a eu la révolution de l'électricité dans les années 20 aux États-Unis, Keynes prévoyait un chômage de masse à la suite de ça. Et dans les deux cas, il n'y a jamais eu de chômage de masse. Et maintenant, avec les robots, il y a l'idée, il y a des personnes qui disent « taxons les robots » parce que ça va rendre le redondant. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait une étude récente, donc, qui est mentionnée dans le chapitre 3 de notre livre, où on montre que les firmes françaises ou qui automatisent plus, en fait, elles créent davantage d'emplois. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est vrai qu'il peut y avoir en partie de la substitution d'hommes par des machines, mais en même temps, ces entreprises-là, elles deviennent plus productives et du coup plus compétitives, et du coup, elles ont des marchés qui augmentent, et du coup, elles ont plus de demandes pour leurs produits, et donc elles emploient davantage. Donc c'est très intéressant, c'est que l'effet, vous voyez, n'est pas immédiat de l'automatisation et de l'innovation sur l'emploi. Donc d'abord, ça, c'est une première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, la destruction créatrice, ça veut dire que souvent, on est amené à changer d'emploi, et que ça veut dire plus de destruction et de création d'emploi. Et là, c'est là que les Danois ont été géniaux. Ils ont créé le système de la flexi-sécurité. J'ai ma collègue Alexandra Roux, qui a fait une étude remarquable montrant que au Danemark, perdre un emploi n'a aucune incidence négative sur la santé, alors qu'aux États-Unis et dans nos pays, elle en a. Parce qu'au Danemark, on a une garantie de revenus et une garantie de formation quand on perd son emploi. Et je crois que ce qui est très important, c'est de comment le système, comment on met en place à nouveau là, des institutions qui permettent d'accommoder et de faire que l'innovation ne se fasse pas au détriment de l'être humain. Maintenant, ce que disait mon collègue sur les salaires, je suis d'accord, bah, je trouve que les salaires sont trop bas en France. Je trouve que c'est scandaleux les salaires, notamment dans l'enseignement. Je trouve que c'est scandaleux la manière dont les enseignants sont payés. Donc moi, on me trouvera toujours du côté de dire, mais je pense que c'est toujours mieux quand les salaires augmentent de pair avec une augmentation de la productivité.
Alors il y a l'impact.
Je pense que voilà.
Mais ça c'est un point très important.
C'est récurrent.
Ouais, il faudrait donc augmenter le SMIC. Vous serez d'accord sur ce point, Philippe Aguillon. C'est un point.
Je ne sais pas que si je le ferais pas. Alors là, il faudra qu'on ait toute une discussion sur est-ce que je fais tout par le SMIC, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait un aplatissement de l'échelle des salaires, mais je suis anti-pauvreté à fond. Et je suis très en faveur d'un revenu universel jeune, notamment, en plus d'un système de flexi-sécurité, comme il existe aussi au Danemark et en Norvège. Et là, il y a plusieurs schémas auxquels on peut penser. Je serais ravi qu'on ait une émission tous les deux et qu'on réfléchisse tous les deux, parce que là-dessus, moi, j'ai les idées très ouvertes et vous êtes beaucoup plus qualifiés que moi. Mais je crois certainement qu'on peut faire beaucoup mieux en France qu'on ne le fait.
Alors, c'est un sujet passionnant, Philippe Aguillon, mais il faut qu'on revienne tout de même à notre sujet du jour, qui est tout de même l'innovation. Et il faudrait absolument faire une émission aussi sur cette question du salaire minimum, mais sur l'innovation et sur ses liens, Cédric Durand, avec les inégalités. Ce que l'on observe avec la Silicon Valley, c'est qu'on a une innovation qui est source d'inégalités spatiales, notamment.
Oui, alors ça, c'est un des phénomènes qui est très important, parce que dans les années 90, on a eu l'idée que, grâce aux nouvelles technologies de l'information, il n'y aurait finalement pas d'avantage à rester dans les grandes villes. On aurait plutôt avantage à se mettre dans un endroit tranquille où on échappe à la pollution et aux embouteillages, etc. Et ce qu'on a observé, c'est au contraire un avantage encore plus important au fait de se situer dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que c'est là où, en allant jouer aux faire du sport avec des amis, quoi que ce soit, on échange. Hein, il y a des milieux qui se créent dans lesquels les idées circulent de façon extrêmement importante. Hein, c'est des économies d'échelle territoriale et qui donc favorisent l'innovation dans ces endroits-là et également les revenus qui sont tirés de ceci. Mais Ça existait déjà auparavant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que avec l'essor de ce qu'on peut appeler les intangibles, hein, c'est-à-dire tous ces actifs qui sont donc des idées, des codes, des symboles, des représentations, etc. Toutes ces choses-là sont créées une fois, mais peuvent être ensuite être utilisées de manière ubiquitaire et immédiate à l'échelle de l'ensemble de la planète. Dès lors, créer ces intangibles devient beaucoup plus avantageux. Et c'est la raison pour laquelle il y a une forme de course à la concentration, à être là où ça se passe pour les idées, parce que lorsque l'on est là où ça se passe pour les idées, eh bien on peut avoir des revenus extrêmement importants. La conséquence de ça, ça a été donc une augmentation des inégalités territoriales, non seulement entre les villes et leur périphérie, mais même à l'intérieur des villes. Et de ce point de vue-là, ça permet de voir un effet, un problème majeur hein, qui n'a pas été du tout envisagé dans le cadre du consensus de la Silicon Valley, c'est que pour qu'il y ait de la Silicon Valley, pour qu'il y ait ces centres hyper productifs, il faut aussi qu'il y ait des non-centres hyper productifs, il faut aussi qu'il y ait un océan de non-Silicon Valley. Il faut des endroits où l'agriculture se développe, où les outils sont fabriqués, où les gens sont soignés, etc. Et donc, cette spécialisation territoriale contribue à des inégalités extrêmement fortes, mais montre aussi le forme de biais qu'il y a à imaginer une forme de développement unilatéral, uniquement centré sur l'innovation. Pour qu'il y ait des centres dynamiques d'innovation, il faut aussi qu'il y ait un monde de non-innovation. Et je pense que ce monde de non-innovation, il faut aussi en prendre soin, et il est négligé souvent.
Et ce qu'on voit avec Schumpeter, Philippe Aguillon, pour rebondir là-dessus, c'est que l'innovation crée de l'inégalité, mais seulement dans un premier temps. Ce que dit Schumpeter, c'est qu'ensuite, l'innovation permet de la mobilité sociale. Alors qu'est-ce qu'il en est en réalité ?
Alors écoutez, c'est complexe parce que si vous voulez, il y a plusieurs mesures d'inégalité. Je crois qu'il faut, parce que sinon l'auditeur va être un petit peu confus. Il va se dire, mais comment vous mesurez l'inégalité ? Il y a une mesure, c'est de dire, eh bien, c'est l'écart à l'égalité globale. Alors il y a des mesures d'écart à l'égalité globale, par exemple la mesure de Gini, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, il y a des mesures, quelle est la part du revenu que touchent les 1% qui touchent le plus, quoi, le top 1% ou le top 0,1%. C'est une autre mesure d'inégalité. Et puis, vous avez une mesure d'inégalité plus dynamique. Par exemple, si mon revenu est davantage corrélé au revenu de mon papa ou de ma maman, ça veut dire qu'il y a plus d'inégalité, c'est-à-dire que c'est plus le milieu social qui détermine mon revenu. Et là, c'est une mesure plus dynamique de revenu. Et il y a des relations entre ces mesures-là. Donc, c'est intéressant d'abord de se dire qu'il y a plusieurs façons de mesurer les inégalités. Ensuite, l'innovation, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, elle augmente les rentes. Si quelqu'un innove, Monsieur Skype, le type qui a inventé Skype, il est devenu une des personnes les plus riches en Suède, d'accord ? C'est parce qu'il a été inventeur. Bon. Donc ça, c'est sûr que l'invention vous permet d'aller vers le top 1% ou le top 0,1%. Donc ça, c'est plutôt un facteur d'inégalité. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est que l'innovation peut être un facteur aussi de mobilité sociale dans la mesure où c'est justement la destruction créatrice. Ça permet à des nouveaux de remplacer des anciens. Et on s'est rendu compte également que les firmes innovantes, et donc j'en parle beaucoup dans le chapitre 5 de mon livre, les firmes innovantes créent davantage de ce que j'appelle des bons emplois, c'est-à-dire des emplois plus qualifiants. Ce n'est pas automatique ce que je dis, mais elles tendent à le faire. Plus qualifiants, plus où on a besoin de donner plus de savoir, même à des gens qui n'ont pas d'éducation au départ, de leur donner davantage de formation au sein de l'entreprise. Donc c'est intéressant que l'innovation a ses effets de mobilité sociale, pas automatiquement, il faut les stimuler évidemment, mais elle a la potentialité. Donc l'effet de l'innovation sur l'inégalité au total n'est pas une chose évidente. Par exemple, ça vous intéressera beaucoup qu'aux États-Unis, les endroits les plus innovants sont des endroits où vous avez aussi beaucoup de mobilité sociale. C'est Raj Chetty et Emmanuel Saez, co-auteur de Thomas Piketty, qui l'a montré dans des études récentes. Les États du sud des États-Unis sont des États avec très peu de mobilité sociale, mais ce ne sont pas les États les plus innovants comparés au Connecticut, au Massachusetts ou à la Californie. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que la relation entre innovation et inégalité, vous voyez, elle est complexe. Ce n'est pas une chose qu'on peut répondre d'une phrase. Voilà.
Si l'innovation peine aujourd'hui à créer de la croissance, c'est le paradoxe qui a été mis en valeur par l'économiste Robert Solo, est-ce que c'est à cause du modèle économique des géants du numérique, un modèle qui serait fondé sur la prédation ? C'est votre thèse, Cédric Durand. Pour vous, nous vivons un retour au système féodal. On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Je suis le lieu de toutes les épithètes, pour ainsi dire la Mecque, l'endroit le plus sélect. J'ai plus d'influence sur ta vie. Tu n'en as toi-même, 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 quelle hérésie en fait. Un australopithèque, un rat de bibliothèque, et encore, je suis gentil, tu n'es plus rien du tout. Silly, silly, silicone. exaucerai sans effort tout ce que tu ne veux même pas imaginer. Silly, silly, silicone.
Bertrand Cantat, Silicon Valley sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, suite de notre débat sur l'innovation et le capitalisme numérique. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Philippe Aguillon et Cédric Durand. Alors comment comprendre le fait que les innovations technologiques de ces dernières décennies n'aient pas débouché sur la croissance attendue? Pour vous, Cédric Durand, c'est lié au modèle économique des géants du numérique qui sont à la fois dans une logique de concentration et de prédation. Et si les entreprises de la tech ont ainsi tendance à se concentrer, c'est d'abord lié, selon vous, à la dynamique même du capitalisme qui tend à accumuler le capital, Cédric Durand ?
Donc, oui, la thèse que j'essaie d'avancer dans le livre, c'est qu'on arrive à une forme de limite du capitalisme. Hein, que autour des questions du numérique, il y a une transformation qui est de l'ordre, qui touche au fond du mode de production. Et qui est liée au fait que la nouvelle manière de produire, ou plutôt la nouvelle manière d'organiser de l'économie, est centrée justement sur ces technologies numériques qui ont des propriétés tout à fait particulières, qui les distinguent des activités qui étaient celles des activités agricoles ou des activités industrielles. Alors, peut-être qu'il faut d'abord rappeler qu'est-ce qui les distingue. Ce qui les distingue, c'est le fait que, dans le cadre de la Terre, vous aviez un problème d'une rareté absolue de la Terre. Ce qui fait qu'on avait des rendements décroissants, c'est-à-dire que plus on produisait, moins on était efficace, parce qu'on touchait, on utilisait des terres de moins en moins efficaces. À l'inverse, dans les technologies de l'industrie, on avait des rendements qui étaient croissants, on tendait à gagner en efficacité progressivement. Et on avait pas de rareté absolue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation tout à fait extrême. C'est-à-dire que d'un côté, on a des rendements qui sont des rendements infinis. Hein. Dès lors qu'on a inventé un nouvel algorithme, une nouvelle idée, on peut le diffuser quasiment gratuitement à une échelle infinie. Donc ça, c'est rendement infini. Mais on a également quelque chose qui a été très largement sous-estimé. C'est le fait que les données originales, les données nouvelles, les informations nouvelles sont strictement uniques. C'est pour ça qu'il y a une bataille qui est véritablement de l'ordre de la conquête, de la même manière qu'il y avait une conquête terrestre, qui est la conquête, la course aux sources de données originales. Et c'est cette course que se mènent les géants du numérique, où qu'ils soient. Alors là, on se retrouve donc dans une situation où on a à la fois des rendements infinis, et en même temps, des sources de données originales qui sont absolument rares, qui sont de l'ordre de la rareté absolue. La combinaison de ces deux phénomènes-là aboutit à une situation dans laquelle la compétition est une compétition non pas pour davantage de production, mais une compétition pour davantage de conquête de ces territoires numériques, c'est-à-dire de capacité à capturer des données et à générer des services qu'elles produisent. Mmh.
Philippe Aguillon, qu'est-ce que vous pensez de cette idée selon laquelle cette alliance entre la captation de données qui seraient rares et des économies d'échelle infinies entraîne une puissance trop importante et une structure économique qui serait toxique?
Alors je voudrais réagir à ça et à Solo, si vous permettez. Donc d'abord, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de la concurrence. Et donc, vous voyez, mon collègue montre bien l'importance de la concurrence. La politique de la concurrence adaptée à l'ère du digital, c'est notamment des politiques de concurrence pour partager les données, pour faciliter l'accès aux données. Donc c'est tout ça qu'il n'y avait pas dans la politique de concurrence jusqu'à maintenant. Donc c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il faut notamment, au milieu d'autres choses, adapter la politique de concurrence pour que les données rentrent dans la politique de la concurrence. Donc vous voyez, ça, je ne peux que souscrire à ce que mon collègue disait, mais c'était un plaidoyer pour la politique de concurrence. Sur Solo, la chose est la suivante. Solo parle au début des années 90. Effectivement, il y a les ordinateurs, mais il n'y a pas encore la vague. Il y a un retard dans la diffusion de la vague, mais on le sait qu'à partir de entre 95 et début d'année 2000 aux États-Unis, il y a eu accélération de la croissance. Donc la vague s'est produite. Alors pourquoi il y a des retards dans les vagues? Parce que vous savez, une vague, c'est une technologie générique en général, une vague comme la machine à vapeur ou l'électricité, et on l'adapte à plein de secteurs. Mais il y a toujours un moment où il se passe pas grand-chose. Paul David, qui est un historien de l'innovation, l'a très bien montré. Pendant tout un certain temps, il se passe rien, puis tout d'un coup, tout le monde s'y met, et il y a un effet de boule de neige. C'est comme ça que ça marche, quoi. C'est un peu comme une maladie qui se répand. Au début, il n'y a pas grand-chose, puis après, il y a un effet d'accélération. Donc d'abord, il y a tout le phénomène des retards dans les vagues technologiques. Alors c'est vrai qu'après, il y a une vague qui se développe, et après la vague, elle s'essouffle. Et alors, beaucoup de gens ont cru que c'était la fin de la croissance et la fin du capitalisme chaque fois. Mais non, parce que après la machine à vapeur est venue l'électricité, qui a été une autre vague. Et après est venue la vague d'éthique. Et maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Penser qu'on arrive à la fin de l'histoire, non, il y a toujours de nouvelles vagues. Et elles ont une période, vous voyez, d'où il ne se passe rien. Après, tout d'un coup, ça s'accélère. Et après, il y a des rendements décroissants. Et la vague s'essouffle jusqu'à l'arrivée d'une autre vague. Donc voilà, je crois que ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose que Solow n'avait pas vu, c'est qu'on ne mesure pas bien la croissance. Vous voyez, moi j'ai fait des études récentes qui montrent que, notamment à cause de la destruction créatrice, eh bien on sous-estime la vraie croissance de la productivité. Elle est au-delà de ce qu'on pense. Elle est 0,7% au-dessus de ce qu'on pense pour la France, par exemple. Donc bonne nouvelle, la France croît plus vite qu'on ne pense. Alors peut-être pas cette année avec le Covid, mais voilà. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas mesurer quand un nouveau bien remplace un ancien produit. On ne sait pas mesurer, on peut pas comparer hier et aujourd'hui. Donc, on ne sait pas calculer le taux d'inflation. Et donc, on ne sait pas calculer qu'est-ce qui est inflation dans la croissance monétaire et qu'est-ce qui est croissance réelle. Et on montre qu'à cause de ce problème-là, à cause du fait que les instituts statistiques ne peuvent pas calculer l'inflation quand il y a des produits nouveaux qui remplacent des produits anciens, on perd, en fait, beaucoup, on sous-estime grandement la croissance de la productivité. C'est une chose intéressante en soi. Voilà, donc si vous voulez,
je vais faire réagir Philippe Aguillon à ce que vous dites, je vais réagir Cédric Durand sur cette idée que la productivité est difficile à mesurer dans le secteur numérique et qu'elle est peut-être sous-estimée.
Oui, alors c'est tout à fait juste que les questions de productivité sont extrêmement difficiles. Et au fond, ce sont des questions politiques. Parce que vous voyez, une des implications des résultats de Philippe Aguillon, qui conduisent à augmenter la valeur de la croissance et donc finalement à diminuer l'inflation, ben ça va être quelque chose qui va conduire à baisser les minima sociaux. Parce que s'il y a davantage de croissance, si l'inflation est moindre qu'on la mesure, ben la conséquence, c'est qu'on diminue les minima sociaux. Alors, il y a toujours une bataille dans l'histoire sur la mesure de l'inflation parce qu'il y a une dimension redistributive. Ensuite, sur le fond, sur la question qualitative, c'est tout à fait juste qu'on a du mal à mesurer la productivité. Et par exemple, des choses qui sont très bien montrées par Philippe Askenazy, c'est qu'on a une intensification du travail aujourd'hui. Par exemple, des femmes de ménage, on va leur demander de mettre davantage de coussins dans une chambre d'hôtel de luxe. Eh bien, ça, c'est de l'augmentation de la productivité. Mais il n'y a pas d'appareil statistique pour mesurer cette augmentation de la productivité. Leurs salaires ne vont pas s'améliorer. Et pourtant, elles vont travailler plus intensément et il y aura davantage de...
Bon. Et c'est plus compliqué encore dans le numérique.
Et dans le numérique, voilà, c'est là-dessus que je voulais venir. Parce que dans le numérique, en fait, la marchandise, ça marche pas bien. La marchandise, ça marche pas bien, c'est-à-dire l'idée qu'on a un service et qu'on paye en face, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien. C'est pourquoi la plupart des gens du numérique, finalement, se rémunèrent autrement qu'en ayant directement accès aux consommateurs. Par ailleurs, notamment par la publicité, si on pense à l'exemple de Facebook ou de Google. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que les effets utiles de Facebook ou de Google, ils démontrent pas de la publicité. La publicité, pour eux, c'est un moyen d'enfermer dans la marchandise le service qu'ils rendent. Et donc là, c'est de ce point de vue-là qu'il y a, à mon avis, une forme d'enveloppe sociale qui ne convient pas à ces technologies. Aujourd'hui, vouloir faire de ces services des services marchands est finalement obligé à biaiser ces services aux dépens de l'intérêt des consommateurs pour pouvoir les développer.
À ce propos, je voudrais vous faire entendre, je vais vous faire rebondir là-dessus, Cédric Durand, et sur cette question, cette comparaison que vous faites entre les services numériques et les fiefs féodaux. Avant cela, je voudrais qu'on écoute le patron de Facebook lors de son audition devant le Congrès américain le 29 juillet 2020.
En février 2012, vous avez dit à un responsable de Facebook que vous étiez intéressé par le rachat d'Instagram. Il vous a demandé si le but de cet accord était de neutraliser un concurrent potentiel ou bien d'intégrer leurs produits afin d'améliorer vos services. Vous avez répondu qu'il s'agissait d'une combinaison des deux, disant « ce que nous achetons réellement, c'est du temps ». Même si de nouveaux concurrents émergent, ces produits n'attireront pas excessivement puisque nous aurons déjà déployé leurs mécanismes à grande échelle. Monsieur Zuckerberg, que vouliez-vous dire exactement en disant que le but était de neutraliser de potentiels concurrents ?
Monsieur le Président, ce ne sont pas là exactement mes mots, mais oui. J'ai été clair sur le fait qu'Instagram était un concurrent dans le domaine du partage des photos sur mobile. En leur proposant de nous rejoindre, ils sont certainement passés du statut de concurrent dans le monde de la photo sur mobile à celui d'une application que nous pourrions aider à se développer, leur apporter plus d'utilisateurs et leur permettre de faire partie de notre équipe.
Monsieur Zuckerberg, les fusions-acquisitions qui vous permettent d'acheter un potentiel concurrent est une violation de la réglementation antitrust.
Cédric Durand, en quoi cet extrait illustre peut-être votre idée qu'en nous rendant dépendants des services qu'elles proposent, les entreprises de la tech recréent un rapport féodal?
Oui, alors les entreprises de la tech se développe sur des technologies dont l'objectif est de prévoir. Et c'est, par exemple, des personnes comme Antoinette Rouvroy ont bien expliqué ce qu'était la gouvernementalité algorithmique. C'est quoi la gouvernementalité algorithmique? Eh bien, finalement, c'est observer nos comportements et cristalliser ces comportements dispersés de façon objective dans des bases de données, traiter ces comportements objectivés dans des bases de données par des algorithmes et, de cette manière-là, en déduire des prédictions extrêmement fines. Et c'est dans ce sens-là que les géants de la tech, finalement, vendent de la publicité dans le sens où ils vendent notre capacité à prévoir, leur capacité à prévoir nos propres comportements. Ce qui est très troublant et ce qui fait que les choses vont au-delà de l'économique, c'est qu'ils prévoient mieux que nous-mêmes nous connaissons. Ils sont capables de comprendre mieux que nous-mêmes nous connaissons. Donc c'est sur la base de ce rapport de domination qui est économique, on en a beaucoup discuté, mais aussi politique, puisqu'il y a une capacité à gouverner les pratiques, que se fonde mon analogie avec le féodalisme.
Philippe Aguillon, vous voulez réagir ?
Excusez-moi, oui, j'aimerais que ce soit égal. Puisqu'on parle d'égalité, je voudrais l'égalité avec mon collègue, s'il vous plaît. Voilà, alors, de temps de parole. D'abord, tout à l'heure, on parlait d'inflation et que moi, en fait, j'étais pour réduire les minima sociaux. Absolument pas. Le livre est un plaidoyer pour un modèle où on augmente les minima sociaux. Deuxièmement, l'inflation, c'est évident que si on surestime l'inflation, en fait, elle est moins que ce qu'on pense, ça veut dire qu'on est très contre les politiques de la Bundesbank. L'Allemagne a une obsession de l'hyperinflation et c'est au nom de cette obsession de l'hyperinflation qu'on a eu des politiques d'austérité. Donc à partir du moment où nous on dit que l'inflation est moins que ce qui est mesuré, ça veut dire que on critique en fait implicitement les politiques de type Bundesbank. Donc vous voyez, je suis tout à fait à l'encontre de ce qui était dit à mon propos. Alors je voudrais maintenant réagir à Zuckerberg, la meilleure sûrement, parce que j'ai eu le privilège de le rencontrer, et c'est exactement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Zuckerberg, ce qui se passe, c'est qu'il a pu sans limite faire des fusions-acquisitions et du coup devenir hégémonique, vous comprenez ? Et du coup, il a inhibé l'innovation des autres. Parce que partout où il allait, à partir du moment où il acquiert un nouveau secteur, l'innovation tombe dans ce secteur. Alors moi, je lui ai posé la question à Zuckerberg. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Et je lui ai dit, le problème c'est ça, c'est que vous pouvez faire des fusions-acquisitions sans limite. Alors il m'a répondu, il m'a dit, oui mais vous voyez, moi, n'importe qui innove, il aura le privilège d'être acheté par moi. Donc je stimule l'innovation, parce que quelqu'un qui innove, je le rachèterai ensuite, comme Instagram. Voilà. Bon, mais seulement le problème, c'est qu'une fois qu'il aura racheté dans ce secteur, l'innovation va tomber dans ce secteur. Et j'ai eu cet argument avec lui, et il n'avait rien à m'opposer. Il ne pouvait pas dire que ce n'était pas vrai. Et on revient toujours à la même idée, qu'il ne faut pas qu'on puisse faire des fusions-acquisitions sans limite. Il faut maintenant, quand on regarde l'opportunité de faire ou non une fusion-acquisition, il faut se demander, est-ce qu'elle sera bonne ou pas pour l'innovation future et pour l'entrée future de nouvelles entreprises innovantes. On a une vision de la politique de la concurrence qui est trop statique. On raisonne trop en termes de part de marché, de définition de marché, de prix, ce qui est très important. Mais on ne raisonne jamais en termes de est-ce qu'il faut permettre ou empêcher une fusion. Par exemple, Veolia-Suez, je pense que c'est une très mauvaise fusion parce qu'elle va inhiber l'innovation. Et je pense qu'il faut maintenant avoir une vision dynamique. Quand on se dit est-ce qu'il faut ou pas permettre une fusion, on va dire est-ce que ça va empêcher ou pas des innovations futures ou des entrées futures. Et j'ai eu vraiment le débat directement avec Zuckerberg et il n'avait rien à m'opposer. Il m'a dit c'est vrai, l'argument est correct.
Alors ça soulève la question de l'État, en effet, Philippe Aguillon, et du rôle de l'État face à l'hyperpuissance de ces grandes entreprises. Je voudrais vous faire entendre un extrait du roman de Louis Aragon, Les Beaux Quartiers, qui est paru en 1936. Écoutez le discours d'un mania d'une compagnie de taxi, Joseph Kennel, qui s'adresse ici à d'autres industriels. John Pierpont Morgan est l'homme qui a compris, et cela dès les années 60, que la libre concurrence, ce stimulant ancien des affaires, avait fait son temps, et que, à l'anarchie de surenchère qui a mené catastrophe sur catastrophe dans l'industrie, il fallait enfin substituer des alliances entre les puissances productives pour dominer le marché, en régler les fluctuations, ouvrir au génie humain les grandes perspectives paisibles du monde moderne. Le nom de John Pierpont Morgan est indissolublement lié à la création de ces trusts qui ont porté l'industrie américaine à cet état de perfection et de concentration, lequel est le grand fait des 50 dernières années de la pensée humaine. Aujourd'hui, la cause des cartels est gagnée et le danger est autre. S'il ne vient plus de nos dissensions, il vient de notre incapacité à sortir des conditions qui nous sont faites à tous par les forces négatives du monde où nous vivons. le travailleur qui ne voit pas plus loin que la paye du samedi, l'État qui ne voit pas plus loin que l'équilibre momentané de son budget, l'un et l'autre, je le disais, cherchent à nous asservir par la loi. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, messieurs, c'est que, de même que dès 1800, la grande industrie a dû abandonner le préjugé de la libre concurrence qui avait été son mot d'ordre, de même en 1913, nous devons abandonner le préjugé de la légalité, considéré comme le conditionnement même des affaires. Oh, je sais qu'une idée semblable a de risqué, et ce qu'elle trouvera d'objection, de scrupule de votre part, l'heure est venue où l'industrie, pour vivre, doit être placée au-dessus de la loi. Philippe Aguillon, ça soulève donc, je le disais, la question du rôle de l'État. Quelle est sa place? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de l'État pour que l'innovation soit vertueuse au-delà de la simple politique de concurrence?
Oui, absolument. Je vais vous donner un exemple, c'est l'innovation verte. Vous voyez, par exemple, on sait que l'espoir d'avoir une croissance verte, c'est parce qu'on va...
Alors, nous avons perdu Philippe Aguillon, je crois, qui commence à nous parler de la croissance verte. Cédric Durand, peut-être en attendant qu'on rétablisse... Non, Philippe Aguillon, nous avons rétabli la ligne. Nous vous écoutons.
Oui, je prends l'exemple de l'innovation verte, par exemple. L'espoir, si vous voulez, d'une croissance verte, c'est parce qu'il y a l'innovation verte, c'est-à-dire les nouvelles voitures électriques, l'isolation thermique, les énergies renouvelables dont les coûts vont baisser, mais ça sera grâce à l'innovation. Le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte. Les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé, on peut montrer, j'ai fait des travaux et on le montre dans le livre, qu'elles tendent à innover à nouveau dans du polluant dans le futur. Vous voyez, on tend à continuer de faire ce qu'on faisait avant. Donc il faut l'État pour rediriger le changement technique vers les technologies vertes, vous voyez ce que je veux dire. Donc le prix du carbone est un instrument, les subventions à l'innovation verte sont un instrument, il y a toute une série d'une politique industrielle verte, c'est un instrument. Donc il faut l'État pour rediriger le changement technique. Mais il faut aussi la société civile, c'est-à-dire les consommateurs. Les consommateurs vont pousser, et elles poussent maintenant de plus en plus, les entreprises à innover dans les technologies vertes, à produire des produits verts. Parce que les consommateurs jouent un rôle très important. Donc on voit bien que et l'État et la société civile ont un rôle crucial à jouer pour que l'innovation ne nous mène pas dans le mur, mais qu'au contraire, l'innovation nous permette d'avoir une croissance qui soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement avec l'environnement. Mais il faut l'État et la société civile pour aller dans la bonne direction.
Cette intervention de l'État pour propulser l'innovation a été contestée dans le passé, elle l'est encore, avec plusieurs arguments. Cette idée que l'État ne serait pas le mieux placé pour orienter l'industrie par manque d'informations, le fait qu'il serait trop soumis au lobbying et qu'il aurait tendance à favoriser les champions nationaux au détriment de la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments, Cédric Durand?
Alors, je pense que les systèmes d'innovation ne doivent pas être pensés principalement en forme d'incitation aux entrepreneurs. Ça doit être pensé comme des systèmes d'innovation dans lesquels sont effectivement plusieurs acteurs. Des acteurs qui sont les producteurs, des acteurs qui vont être les systèmes d'université, de formation continue tout au long de la vie, les territoires et effectivement l'État. Moi, mon point qui est absolument essentiel sur les questions de transition écologique, c'est qu'on est dans une situation dont la seule analogie économique est celle d'une économie de guerre. À l'échelle de 10 ans, il faut radicalement diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça doit être une contrainte qui ne doit pas être indirecte par des signaux prix, etc. Ça doit être une contrainte qui doit être absolue, définie secteur par secteur, année par année. Il faut définir collectivement un sentier de décroissance des émissions de gaz à effet de serre et un sentier de décroissance qui soit par ailleurs respectueux des différentes autres dimensions de l'environnement, biodiversité, etc. Donc pour ça, le mécanisme qu'il faut mettre en place, à mon avis, c'est une forme de planification. C'est quelque chose qui fonctionne pour les situations de crise avec un objectif précis de ce type-là. Et aujourd'hui, il faudrait organiser un système de planification à l'échelle française ou encore mieux européenne pour faire en sorte que les objectifs soient des objectifs qui soient impératifs en termes de respect de l'environnement. Autrement dit, et ça m'emmène à une autre question par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le mécanisme de la concurrence. Le problème de la concurrence, c'est qu'il est principalement organisé autour des prix. Or aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information, on peut avoir des calculs économiques qui sont beaucoup plus riches. Il faut avoir un calcul économique qui optimise plusieurs choses, et en particulier qui prenne en compte à la fois la dimension environnementale, on peut intégrer des critères sociaux, et la dimension effectivement de rareté, de travail, etc. Et donc, Inventer ce calcul économique, c'est la tâche des économistes d'aujourd'hui. La marchandise seule, le signal prix, est un signal beaucoup trop pauvre pour organiser l'économie à l'âge des algorithmes. Et c'est déjà ce que font les géants de la Silicon Valley. C'est déjà ce que font Google, Amazon, etc. Mais il faut que ça soit, cette puissance-là soit mobilisée au service de la coordination publique.
Philippe Aguillon, la planification plutôt que l'incitation, les signaux prix seraient insuffisants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je crois beaucoup dans une combinaison, si vous voulez. Vous voyez, je crois à la fois dans les incitations et dans une vraie politique industrielle. Voyez, donc je crois beaucoup dans... Alors c'est très intéressant. D'abord, il faut que vous sachiez que la France contribue pour moins de 1% aux émissions mondiales de CO2, notamment grâce aux centrales nucléaires et aux centrales hydroélectriques. Il faut le savoir quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment d'une politique industrielle. Mais je serais pour la création en France d'une ARPA énergie. Vous voyez, de l'équivalent de la DARPA. La DARPA, c'était Defense Advanced Research Project Agency, créée pendant la guerre froide aux États-Unis dans le domaine de la défense. Mais c'est pour faire passer... disons, de recherche fondamentale qui est faite vers les applications. C'est les innovations de rupture, quoi. Et ça a été fait dans la défense. Et ensuite, les Américains l'ont fait dans le domaine de l'énergie. Et ensuite, ils l'ont fait dans le domaine de la biologie. Vous voyez, Pfizer, c'est grâce à la BARDA, qui est l'équivalent pour la biologie de la DARPA. Et ben moi, je pense que, vous voyez, pour le Covid, il faudrait créer, et pour toutes les maladies futures en France, l'équivalent d'une BARDA. Et il faut créer l'équivalent d'une ARPA énergie pour pousser, pour stimuler l'innovation et les innovations de rupture pour les technologies nouvelles dans le domaine de l'environnement.
On arrive à la toute fin de cette émission.
Des institutions et de politique industrielle.
Je vais vous faire conclure très rapidement tous les deux. Un dernier mot, Cédric Durand d'abord, puis Philippe Aguillon ensuite, sur les conditions nécessaires pour que l'innovation produise de la croissance et pour que cette croissance profite au plus grand nombre. Cédric Durand.
La première chose, ça serait plutôt que d'enfermer les connaissances, plutôt d'avoir un processus de monopolisation intellectuelle qui est celui qu'on a aujourd'hui, c'est au contraire d'ouvrir les connaissances, affaiblir les droits de propriété intellectuelle et favoriser effectivement des systèmes qui soient numériques, qui soient transparents, qui soient ouverts et qui soient fortement régulés par le public. Voilà quel serait le message central. En ce qui concerne la croissance, je pense aujourd'hui que ce n'est pas un objectif en soi qui est suffisamment satisfaisant. Il faut absolument avoir une combinaison d'objectifs pour produire du bon développement et pas de la croissance pour de la croissance qui est aujourd'hui absolument mortifère.
Philippe Aguillon.
Oui, alors donc écoutez, d'abord je pense pour l'écosystème de l'innovation, c'est très intéressant les comparaisons États-Unis-Europe. Nous, eux sont, le Covid a montré qu'ils sont très mauvais pour la protection sociale. On voit que ça a été un drame, quoi. Les pauvres sont morts en masse et ils n'ont pas eu de protection de santé, ils sont tombés en pauvreté, etc. Nous, on est quand même beaucoup mieux et les Scandinaves encore mieux que nous pour protéger. Mais ce qu'ont par contre les Américains, là où ils sont meilleurs que nous, c'est pour stimuler l'innovation. D'abord, ils ont un système pour la recherche fondamentale. Les universités sont beaucoup mieux financées. Ils ont l'équivalent de l'ANR, qui est
l'Agence nationale de la recherche.
Voilà, qui est très, très bien financée. Donc, ils ont tout d'abord un système pour la recherche fondamentale beaucoup mieux que nous. Ensuite, ils ont ces fameuses DARPA et ARPA qui passent de l'innovation fondamentale aux applications, beaucoup plus développées que nous. Ensuite, ils ont le private equity et le capital risk beaucoup plus développés. Les investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que nous. Ils ont du mécénat beaucoup plus développé que nous.
Donc, si je résume, il faudrait prendre ce qu'il y a de bon aux États-Unis et du côté des Scandinaves.
Je pense qu'exactement. Je pense qu'il y a des bonnes choses, mais on ne veut pas prendre ce qu'il y a de mauvais chez les États-Unis. Il faudrait idéalement avoir le système de protection que nous avons et développer un système d'innovation beaucoup plus que nous le faisons jusqu'à maintenant. Sur la croissance, pour.
Très rapidement, Philippe Aguillon.
Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pour une croissance juste et verte. Donc je pense que la croissance, ce n'est pas un truc quantitatif, c'est un truc qualitatif, et c'est de permettre à chacun de nous de vivre mieux et de se développer davantage et de réaliser ses ambitions, et que cette possibilité soit donnée à tout le monde. Et moi, la pauvreté, évidemment, et les trappes de pauvreté, c'est quelque chose qui me révolte totalement.
Un grand merci à tous les deux, Philippe Aguillon et Cédric Durand, de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Philippe Aguillon, Le pouvoir de la destruction créatrice, qui est paru aux éditions Odile Jacob, et puis Cédric Durand, Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique, paru aux éditions Zone. Merci beaucoup de nous avoir permis de renouer avec nos débats du vendredi. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Ayette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Félix Levacher et à la technique aujourd'hui Clément Daté. La semaine prochaine, on vous propose de penser ensemble l'économie d'un monde meilleur, une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Avec Éloi Laurent, on se demandera d'abord comment orienter la croissance vers la santé et le bien-être. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Bonne année encore et bon week-end.